La revue de presse internationale de Camille Magnard. Bonjour Camille.
Bonjour.
Avec vous, nous explorons la presse bolivienne ce matin, au lendemain d'une élection incertaine pour le président Evo Morales.
Incertaine, c'est vrai qu'elle l'est, cette présidentielle, à tel point, comme nous dit la Razón à La Paz, que la soirée électorale d'hier a connu comme un basculement. Vers 80% des bulletins dépouillés, il est apparu que non, le quatrième mandat voulu par le président de gauche Evo Morales n'allait peut-être pas de soi pour des électeurs bolivien et que l'opposant Carlos Mesa allait bien, sauf nouvelle énorme surprise, arracher un second tour au dirigeant actuel d'Amérique latine qui affiche la plus grande longévité au pouvoir. Et c'est sans doute de là que vient la désaffection qui pointe contre le leader du MAS, le Movimiento al Socialismo, élu pour la première fois il y a 13 ans. Et de nouveau, Evo Morales donc candidat pour une troisième réélection. Ce quatrième mandat a bien du mal à passer. Morales, pour pouvoir se représenter sans limite, a dû modifier la constitution bolivienne. Il l'a fait par référendum au printemps 2016, mais une majorité d'électeurs a voté contre. Alors le camp présidentiel a dû revenir à la charge, cette fois devant le tribunal constitutionnel qui lui a donné finalement son feu vert. Aujourd'hui, les chiffres s'affichent sur la une du site du quotidien El Deber avec 84% donc de bulletins dépouillés. Morales est en tête avec 45% des voix, mais pour la première fois de sa présidence, il n'a pas les 10 points d'avance nécessaires sur son rival, le candidat de droite Carlos Mesa, avec 38% des votes, et il va donc devoir disputer a priori un second tour le 15 décembre. Enfin, à lire Página 7, journal d'opposition, on comprend que Morales ne s'avoue pas encore vaincu, qu'il s'est tout de même déclaré vainqueur dès hier soir, se disant confiant dans le fait que le vote rural et paysan va faire tourner les résultats en sa faveur dans les 16% de bulletins qui restent à dépouiller. Et pendant ce temps, son rival Carlos Mesa, bien lui, considère le deuxième tour comme acquis et il appelle à l'unité derrière lui, l'unité de ceux qui veulent saisir cette opportunité de barrer la route au MAS et à son président indigène.
Et oui, car la carte du vote confirme que la grande fracture bolivienne se situe entre habitants de la plaine et ceux des montagnes.
Et oui, comme l'analyse El Deber, les 5 régions de l'ouest du pays dans la cordillère des Andes ont donné la victoire à Evo Morales, premier président, on le rappelle, d'ethnie andine Aymara de l'histoire bolivienne. Les régions de l'est, dans la plaine et la forêt amazonienne où l'économie reste dominée par les Blancs, voient le camp de Carlos Mesa emporter la mise. Dans ces régions, nous dit le New York Times, Evo Morales, le champion des discours sur la nécessité de respecter la Pachamama, la terre-mère, Evo Morales donc s'est retrouvé ces derniers mois très contesté autour de sa gestion des incendies, justement en Amazonie. Il a tardé à prendre la mesure de la catastrophe, il a semblé faible dans ses réponses, et cela a relancé le débat très vif sur les aspects très productivistes de sa politique agricole dans la plaine et ceux très extractivistes de ses choix en matière d'industrie minière dans les montagnes. Tous ces enjeux ont certainement joué dans les résultats d'hier. Si second tour il doit bien y avoir, la victoire d'Evo Morales n'est même pas assurée, compte tenu du ralliement à Carlos Mesa de déjà 2 candidats d'opposition, mais le MAS a son discours bien rodé pour remobiliser les foules d'ici au 15 décembre. On le trouve, ce discours, résumé dans une interview au magazine de gauche américain Jacobin du vice-président du parti et éminence grise d'Evo Morales, Alvaro Garcia Liniera. Morales, dit-il, doit gagner pour prouver à tous que la vague rose n'est pas morte en Amérique latine, que le socialisme et sa révolution permanente n'ont pas dit leur dernier mot sur un continent qui, il est vrai, voit Morales de plus en plus isolé et des dirigeants de droite durs élus un peu partout, comme Jair Bolsonaro au Brésil, Ivan Duque en Colombie, mais aussi des présidents de droite contestés comme Mauricio Macri en Argentine, Lénine Moreno en Équateur ou ces jours-ci Sébastien Piñera au Chili.
Et on part à présent en Australie pour une revue de presse caviardé ?
Oui, c'est ça, des unes de quotidien barrées de noir, un tampon rouge qui dit « secret, ne pas publier », comme si une censure grossière était passée par là et avait tout recouvert. Eh bien, c'est justement ce que craignent et ce que dénoncent ce lundi les principaux titres de la presse argentine, avec ces unes donc barrées de noir. The Australian, The Sydney Morning Herald, The Age et d'autres partenaires, donc pour une fois dans cette opération choc contre ces lois qui sont censées, disent-ils, protéger le secret des affaires, mais qui criminalise le travail des journalistes au quotidien en Australie. Un spot télé a même été diffusé sur plusieurs chaînes aujourd'hui.
The media cannot investigate cover-ups and keep the government honest if it says you're not allowed to know. Couldn't happen in Australia? It's happening now. When the government hides the truth from you, what are they covering up?
À l'image, un décor de rédaction des journalistes qui reçoivent un document que l'on imagine confidentiel, mais qui se révèle entièrement caviardé, donc censuré, avec cette voix off qui nous explique qu'aujourd'hui, oui, en Australie, le gouvernement cache certaines vérités et empêche les journalistes d'enquêter. Pour preuve, les médias engagés dans cette campagne évoquent deux affaires qui remontent au mois de juin. D'abord, une perquisition menée au siège du groupe News Corp, où une journaliste d'ABC News enquêtait sur les progrès inquiétants de la surveillance électronique des citoyens par l'État. Et puis cette autre descente de police, toujours chez ABC News, mais cette fois contre plusieurs journalistes qui avaient révélé en 2017 des crimes de guerre commis par des soldats australiens en Afghanistan. La raison et le secret d'État donc à chaque fois invoqués pour faire obstacle à la liberté de la presse, intimider les potentiels lanceurs d'alerte. C'est toute la question du droit de savoir des citoyens, de la responsabilité aussi devant eux des décideurs. Une responsabilité qui disparaît, s'il faut bien le dire, si la presse n'est pas libre de révéler leurs fautes. Voilà des questions qui sont loin de ne se poser qu'en Australie. Elles traversent même la profession dans le monde entier. Et je ne serais pas surpris, Guillaume, que cette campagne des unes caviardées australiennes fasse des émules sur d'autres continents.
Merci beaucoup, Camille Magnard, pour cette revue de presse internationale.